RNV Podcast.
Pour la suite, toujours à ce montre jazz, je suis avec Laura Scalia. Salut Laura.
Salut Yago.
Ça fait plaisir de t'avoir à ce micro, comme d'habitude, bien entendu. La dernière fois qu'on avait pris le temps de papoter pour évoquer un projet, eh bien, c'était un projet qui ressemble un petit peu aux dernières dates. C'était The Calling.
Exact.
En 2021, on se rappelle que tu y mélangeais bien sûr des chansons, mais aussi de l'image réalisée par May Fatan. Là, on se revoit pour The Rise.
Mm-hmm.
Je le disais, le projet, finalement, il est un peu similaire, dans, en tout cas, son déroulé.
The Rise, exactement. De nouveau, une ambition audiovisuisuelle, mais cette fois, pas des clips vidéo, mais un film, un court-métrage, où en fait, les morceaux deviennent la bande-son du film par extrait. Donc, on ne retrouve pas sur le film les 4-5 minutes des morceaux, mais seulement 20-30 secondes à chaque fois. Et ça permet, je crois, de plonger à la fois dans l'univers musical et en même temps de mettre vraiment l'accent sur l'histoire. Parce que c'était déjà ce que j'avais voulu faire avec The Calling en liant ces 5 clips vidéo avec le bijou qui se perdait que je devais récupérer. Mm-hmm. Et puis là, ben voilà, ces 20 minutes de court-métrage permettent de vraiment comprendre. Il y a des dialogues, il y a des acteurs, il y a une véritable histoire.
Elle vient d'où cette passion pour le cinéma ?
Mais je sais pas, je rêve beaucoup, donc j'ai toujours beaucoup d'images. Quand je projette aussi des situations, etc., c'est toujours très visuel. Et puis, je crois que, de manière inconsciente, quand j'écris mes morceaux, comme il y a toujours une thématique assez forte que j'aborde, ben, on a envie de mettre ça en image, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens consomment beaucoup la musique avec les yeux, et j'ai pas envie qu'ils passent à côté du message.
Mm-hmm.
On sait que les gens écoutent peu les paroles, typiquement dans un live, comme on va faire tout à l'heure ici au Montre Jazz. Les gens, ils s'enjaillent sur la musique, etc., mais ils écoutent pas vraiment le sens. Et ce qui est intéressant là dans le nouveau show que j'ai mis en place, c'est que je glisse des bouts de dialogue, ou en tout cas de voix off, qui racontent un petit peu ce que le film veut transmettre, mais dans le show live. Ça, les gens ne peuvent pas passer à côté du fait qu'il y a vraiment un message et une histoire.
Passer à côté du message en chanson, je suis à peu près d'accord avec toi pour ce qui est de l'anglais. Mm-hmm. Mais toi qui chantes dans différentes langues, on est bien d'accord que sur le français, tu es quand même pas mal jugé sur le texte.
C'est vrai, plus sur le français. Mais comme tu l'as certainement remarqué, The Rise a très peu de titres en français.
Il y en a un.
Il y en a un demi.
C'est vrai.
Puisque Petit L, à moitié en anglais, à moitié en français. C'est un album qui est très pop-rock. Donc tout de suite très énergique. Les gens, ils vont surtout écouter la mélodie ou bien la guitare électrique qui envoie comme ça la sauce. Peut-être un peu moins les paroles. Donc voilà.
In English, we don't care about the lyrics. C'est vrai. Et ça a toujours été le cas. Il suffit de voir hein, les plus grands tubes de tous les temps. Les autoroutes de l'enfer. Enfin voilà. Hein. Pour ne parler qu'ici, évidemment, il y a plein d'autres exemples. Dans quel contexte t'as écrit ces morceaux ?
Alors, ça a été une collaboration avec un producteur canadien, d'où la sonorité un peu anglo-saxonne, comme ça, américaine, ouais. Que je cherchais, hein, que mm-hmm. je voulais. Il m'a été présenté par un ami que tu connais peut-être et que vous connaissez peut-être sur RNV, Olivier Chauva.
Oui, bien sûr.
Voilà. C'est Olivier qui m'a présenté Peter Van Wittfunk, qui est basé à Montréal, au Canada, et puis qui a vraiment cette touche, et puis qui a aussi un certain âge, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a produit beaucoup d'albums. Donc il a vraiment sa signature aussi. Et donc cette collaboration, elle s'est faite vraiment c'est vraiment une collaboration parce que des fois les gens croient que ah ouais, j'avais juste une grille d'accords et puis une mélodie et puis je lui ai envoyé puis il a fait tout l'arrangement, pas du tout.
Ça m'étonnerait, oui, connaissant le personnage.
On a vraiment fait ça à deux. Il m'envoyait quelques idées, moi je renvoyais des idées, je faisais aussi des trucs sur mon ordi, je posais des trucs sur le piano, je disais t'arrives à mettre ça mais avec une sonorité plus comme ça, etc. On a vraiment construit ensemble et d'ailleurs je l'ai fait venir en Suisse pour enregistrer l'album en Suisse. Donc ça c'est aussi assez exceptionnel et donc il y a eu vraiment une collaboration, une alchimie, une osmose entre nos quatre oreilles en fait et ça donne l'album The Rise.
Collaboration sur la musique et bien entendu aussi sur les images puisque pour l'occasion tu travailles avec Christophe Arnoux.
Exactement, Christophe Arnoux. Qui est d'ici d'ailleurs.
Bien sûr, de Montreux. Ouais.
Tu le connais ?
Je connais le personnage, mais je ne le connais pas personnellement.
Yes, alors bah, Christophe qui a déjà, je crois que ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il est en Suisse. Il a réalisé pas mal de films, produit aussi quelques-uns. Et puis en fait, à la base, comment on s'est rencontrés ? Il m'avait sollicité sur un de ses projets à lui. Et puis au final, quand je lui ai parlé de mon ambition avec ce nouvel album, j'étais en train de démarcher des vidéastes. Et puis, quand j'ai parlé de ça, il m'a dit « Mais Laura, mais Et pourquoi tu me demandes pas à moi ? Limite, un peu, il l'a un peu mal pris. J'ai dit, mais attends, Christophe est en train de travailler sur La Source, son premier long métrage d'ailleurs, parce qu'il a fait 40 ans de court métrage, son premier long métrage. Et puis, il me dit, non, mais attends, c'est génial là, ce dont tu me parles. Non, puis on s'entend tellement bien, et puis nos univers artistiques, et puis nos aspirations aussi, quelque part, cette osmose sur le fait de croire à l'invisible, quelque part, au subtil. C'était vraiment quelque chose d'assez clé aussi dans la manière dont j'ai composé The Rise. Et puis, je voulais que ça ressorte aussi dans l'image et dans la dramaturgie, et donc on s'est rejoint là-dessus, puis on a bossé comme des fous. Il a mis de côté son projet pour bosser sur The Rise, donc je le remercie infiniment pour ça.
Sacré cadeau, effectivement. Mm-hmm. Bien sûr, on parle de relations humaines comme souvent dans tes compositions. Comment tu présenterais le synopsis de ce court-métrage?
En fait, c'est une forme d'autobiographie fictionnée quand même un petit peu. Donc c'est Laura Scalia, moi-même, mais en personnage, qui est en pleine ascension artistique. Elle reçoit un disque d'or, etc. Elle a beaucoup de reconnaissance.
Bientôt.
C'est ça. On pose des intentions positives.
Ah ouais, il faut.
Et puis, un jour, elle réalise qu'en fait, son petit ami a mis en ligne une vidéo compromettante, c'est-à-dire une vidéo de leurs ébats amoureux, à son insu. Et donc là, bah, ça va faire un buzz, un bad buzz. Et puis en fait, il y a ce moment où quelque part elle se dit, ah mais tiens, un bad buzz, en fait, c'est un peu la mode, tu vois, c'est de dire, tiens, on profite de ce bad buzz, ça fait un peu parler de soi. Puis en fait non, elle se reconnecte à sa valeur, elle se dit non, mais c'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'être présentée au monde, et c'est pas du tout les valeurs qui m'habitent. Donc elle va suivre son âme qui la guide, cette petite voix qui lui dit quoi faire, et puis elle va s'élever et prendre conscience que chaque événement de la vie lui permette de s'accomplir.
Ces petites choses invisibles dont tu parlais tout à l'heure, évidemment, et puis qui peuvent nous guider au quotidien, parfois d'ailleurs qu'on oublie peut-être un peu trop d'écouter. L'image dans ton quotidien, évidemment, elle est extrêmement présente dans notre, on va dire, société actuelle, avec les réseaux sociaux, avec plein de choses dont il est question notamment ici, puisque évidemment, on peut imaginer que ces images finissent sur un réseau social quelconque. Comment tu la gères, toi ? Comment tu la vis au quotidien, cette exposition permanente ?
Ben justement, j'essaie de ne pas avoir d'exposition permanente. J'essaie vraiment de communiquer autour de mon art, autour de ce que je fais. Mais je sais que je pourrais le faire encore mieux. Mmh. Parce que quelquefois, j'ai aussi tellement de choses, je suis sur tellement de projets qu'il y a un manque de temps, tout simplement. C'est vrai que tout d'un coup, quand j'ai 2-3 jours devant moi, je me rends compte que, ah tiens, en fait, quand je regarde le coup dans mon téléphone puis que je vois tout ce que j'ai fait, je me dis, mais j'aurais matière à tellement partager. En fait, j'ai juste pas eu le temps de mettre ça en forme, quelque part, pour que ce soit présentable sur les réseaux sociaux. Donc il y a aussi une petite forme de frustration à ce niveau-là, c'est de pas réussir à poster suffisamment, mais suffisamment de matière intéressante, pertinente. Maintenant, la surexposition, pour l'instant, j'y ai encore jamais été vraiment confrontée. On verra par la suite le jour où ça arrive. Par contre, c'est clair que la thématique principale du film, ça, je l'ai véritablement vécu. Donc, il a fallu faire face à ça. C'était il y a déjà quelques années. Maintenant, c'est fait, c'est digéré. Et puis, The Rise, c'est aussi une manière aujourd'hui de pouvoir transmettre aux nouvelles générations une forme d'éveil et de dire, voilà, juste soyez conscients que ça existe aussi.
Est-ce qu'il y a un côté aussi qui te permet d'exorciser la chose dans la création de ce court-métrage ?
Alors, je n'écris pas pour digérer, je digère avant et ensuite j'écris. Donc oui, mais quelque part, en fait, c'est pas tant pour moi, je crois, que j'écris, c'est surtout pour les autres.
Ouais, comme tu le disais là, vraiment pour quelque part tirer la sonnette d'alarme.
Sensibiliser,
ouais.
Vraiment ouvrir les dialogues peut-être sur ces thématiques-là. Il y a aussi le thème de la perte d'un enfant dans le film, donc voilà, on n'en parle pas souvent. Et puis d'ailleurs, c'est beaucoup des thématiques qui concernent souvent les femmes quand même. Donc il y a aussi une forme de féminisme glissé. Mais ce n'est pas comme ça que je vais le brandir et ce n'est pas comme ça que je vais le présenter. C'est aux personnes de recevoir l'œuvre telle qu'eux la décodent, telle qu'eux la déchiffrent.
On parle cinéma avec The Rise, mais ce n'est pas la seule nouvelle de cinéma qui arrive sur cette année 2024, parce que tu as été confronté à un événement qui n'est pas super commun dans la carrière d'un artiste suisse, puisque tu as participé à un court-métrage qui, en plus, a été nominé aux Oscars.
Eh oui, The Fuse, un réalisateur, une productrice qui sont en couple, que je connaissais déjà d'il y a quelques années, on avait gardé contact, et qui me disent un jour, Laura, on a notre nouveau court-métrage et on aimerait ta voix sur le thème principal du film. Puis je dis, ok, super, vous en avez besoin pour quand ? Dans 3 jours. Ok, c'est quoi comme morceau ? En espagnol, un morceau que je ne connaissais pas du tout. Il a fallu vraiment que je l'intègre, que je le fasse mien, enfin quelque part, que j'en fasse ma sauce. Et puis que je l'enregistre et que je le renvoie et que ce soit intégré au film. Donc c'était aussi challenge. Et puis moi, je l'ai fait comme ça, quelque part, un peu pour rendre service aussi.
Bah oui.
Comme j'aime bien les défis, tu me connais, j'ai dit tiens, sympa. Et puis une année après, j'apprends que le film est qualifié aux Oscars à Los Angeles et puis aussi nominé au Quartz suisse. Donc ça a été une belle aventure. Et puis bah, du coup, le court-métrage a été visionné par beaucoup de monde dans le monde entier. Et j'ai reçu beaucoup de messages en fait. Mais on ne trouve pas ton morceau là parce qu'il n'est pas sur Spotify. Donc il faut aller voir le film. Et je crois que là, il est en ce moment sur YouTube, sur Focus Feature. Et puis voilà, c'est un très beau court-métrage.
L'espagnol, c'est une langue que tu pratiques souvent ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'aime bien, hein, qui est une très belle langue. Des fois, je fais des reprises en espagnol, mais pas. J'avais jamais vraiment enregistré en espagnol, ni même vraiment comme ça travaillé le texte en espagnol. Donc, une très belle expérience. Et puis quelque part, ça ouvre aussi sur d'autres perspectives. J'aime ça. Et puis aussi hein, le retour de Matthew Modine, monstre de Hollywood, acteur producteur américain, qui est coproducteur du film et qui m'a envoyé une petite vidéo en disant j'adore ta voix et tout. C'est vrai quand on reçoit ça, au départ j'y ai pas cru, j'ai cru que c'était une blague. Tu sais, aujourd'hui avec l'IA tu peux faire tout et n'importe quoi.
C'est vrai.
Puis en fait non, c'était vrai. Donc ouais, c'était vraiment un moment sympa, complètement inattendu. Comme quoi des fois, c'est aussi ce que je dis souvent, c'est que il faut pas se limiter à certaines choses quand on nous propose des collaborations parce que ça sort du registre musical habituel. Souvent les artistes eux-mêmes s'enferment quelque part dans un registre parce que quelque part ça permet d'alimenter un public qui est déjà aguerri, etc. Et puis moi j'ai toujours fait l'inverse en fait. On me propose des trucs qui n'ont rien à voir et puis j'accepte. Puis alors peut-être ça peut déstabiliser une partie du public qui se dit mais elle va où, qu'est-ce qu'elle fait en fait. Et puis ça permet aussi d'aller découvrir de nouveaux publics. Donc quelque part je crois qu'on s'y retrouve un peu.
Oui, puis même dans tes goûts personnel, de toute façon, on est dans un univers hyper varié, autant dans la pop que le rock, que dans plein de choses. Et ça se voit bien sûr dans ce que tu proposes, notamment aussi dans ce que tu fais avec Hi-Five, à qui on passe un petit coucou en passant. On se croise ici au Montreux Jazz Festival. Évidemment, c'est pas une date anodine non plus dans une année. J'imagine que ça te fait plaisir d'être là.
Mais oui, c'est extraordinaire de se dire qu'il y a quelques années, je jouais sur cette même scène, mais en faisant de l'animation, en faisant des reprises, les gens buvaient des cocktails, écoutaient d'une oreille. Mais se retournait quand même en disant « mais c'est quoi cette voix ?» Et puis là, cette fois programmée vraiment dans le cadre du festival, avec mes compositions et avec mes musiciens, c'est assez exceptionnel. Et je remercie les personnes qui me font confiance et qui me permettent d'arriver là.
Ces musiciens, tu nous les présentes ?
Oui, alors au clavier, on a donc depuis 5 ans, depuis le tout début de cette aventure musicale, tu le connais aussi, Raoul Baumann. Ensuite, à la guitare, on a Barty Carillo, qui me suit aussi depuis maintenant quelques années. Ensuite, il y a Gilles qui est arrivé l'année passée, à la batterie, Gilles Rebert. Et puis à la basse, on a maintenant Yvan De Luca.
Eh bien, effectivement, belle équipe. Sûr que tu vas passer un excellent moment avec eux tout à l'heure. Et ce sera évidemment le cas certainement dans d'autres concerts prévus cette année. J'invite nos auditeurs à aller faire un tour sur laurascalia.com pour voir toutes les informations. On trouve aussi sur les réseaux, bien sûr. Et on va terminer avec un morceau issu de ce dernier EP. Lequel ?
On peut écouter Petite Aile, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure.
Tu nous en parles en deux mots ?
Petite aile, c'est en fait l'histoire d'un petit qui ne naîtra jamais, d'une aile qui s'envole trop tôt. Et donc un morceau écrit à la fois en anglais, à la fois en français et qui se termine avec des paroles assez poignantes qui disent qu'au final, l'eau continue de couler et que la vie continue d'avancer.
Allons-y.
Merci beaucoup.
Et merci à toi.
Deep in my soul, there's barely more than just a pain. And through a whisper, it seems my hope has gone astray. And I need someone to hold me tight when the sorrow's too much to bear. And I feel your heartbeat in my chest, but you're not there. Je te vois, tu t'en vas sans peine, sans.
www.radionv.ch.